Cours de philosophie critique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Chaudard, le 27 mai 1993.
D'entrer dans l'intelligence de l'induction. C'est capital. C'est très difficile à exprimer. C'est pour ça qu'Aristote passe si vite dessus. On passe du visible à l'invisible. Question que j'ai posée à un psychanalyste freudien. À quel moment dans l'analyse freudienne pouvez-vous fixer le moment où on passe du visible à l'invisible? Ils m'ont répondu impossible. Je dis ça ne m'étonne pas. Or tout est là. C'est très très curieux. Et il y a les retombées après. Des gens qui ont cru imaginativement découvrir l'invisible, découvrir un principe, en réalité n'ont rien découvert du tout. Alors il y a les retombées atomiques. Alors on retombe dans le psychologisme. C'est très très curieux ça, et je crois que c'est ça. Et là on a une fureur contre les principes. Alors, je prends exprès, historiquement, la première forme d'induction, elle est chez Platon. C'est intéressant, tu vois, parce qu'on ne dit jamais ça. Hein. Le Platon, c'est un univers, c'est une grande forêt, Platon. Hein. Là, il y a des tas de choses. Il y a des champignons. Ça pousse bien. Et puis, il y a quand même de temps en temps des choses merveilleuses. Manière d'étudier Platon qui est très intéressante, c'est de voir comment Platon s'est aperçu progressivement dans sa vie que l'aspect de la réminiscence n'était pas suffisant. Vous voyez ça? Quelqu'un qui voudrait faire une petite thèse sur Platon là-dessus, ce serait très intéressant pour lui. Voilà. Parce que on voit bien, il y a des crevasses dans Platon. Il y a le Parménide. Le Parménide, l'autocritique de Platon. Il voit que ce qu'il dit n'est pas suffisant. Et alors, Socrate se met à l'école de Parménide. Socrate qui devient un heideggerien. C'est extraordinaire. À l'école de Parménide. Mais un Parménide qui n'est pas tout à fait le Parménide de l'être. Parménide de la dialectique. C'est très curieux. Il y a le banquet Diotime. Socrate qui se met à l'école de Diotime. Diotime, la prêtresse. Et des voix à l'école des prêtresses. Il y a toujours des prêtresses. Alors on se met à l'école des prêtresses. C'est comme curieux, comme les hommes aiment se mettre à l'école des prêtresses. Diotime. Diotime apprend à Socrate ce que c'est que l'amour. Diotime est quelque chose de très grand. Et les crevasses. Et ça, ce serait très intéressant à étudier toutes les fissures qui montrent que la réminiscence du Ménon, parce que le point de vue, c'est le Ménon. On doit connaître un peu Platon. Il faut le connaître, parce que c'est quand même un très grand bonhomme. Quand vous êtes fatigué d'Aristote, vous prenez Platon, à partir de 10h du soir, vous pouvez lire Platon, ça vous prépare au sommeil. Tandis que si vous faites de l'Aristote jusqu'à 11h, vous dormirez difficilement. Tandis que si vous avez une heure de Platon le soir, c'est très reposant. Et il faut connaître Platon. La découverte du visible à l'invisible. voir comment, dans le Ménon, c'est la réminiscence. La réminiscence pure. On savait tout d'avance. Et je suis là pour vous réveiller de votre vie antérieure. Votre vie antérieure, vous étiez tous ces contemplatifs merveilleux. Vous étiez vous suivez les dieux dans leur contemplation. Mais vous avez péché. C'est pour ça que vous avez un corps. Conséquence du péché. Alors ça, c'est marqué là-dessus. Alors il faut vous rappeler. Mais on voit que c'est pas suffisant. On attaque Platon dans le Parménide auto, cette espèce de avec le jeune Aristote qui est là. Alors évidemment, ce jeune Aristote, c'est pas Aristote, c'est un autre Aristote. Très bien. Historiquement, on ne sait pas c'est qui. Ce que Platon ne dit pas. Mais dans la vie de Platon, il n'y a pas deux Aristotes. Il y en a un. Historiquement, on sait qu'il y en a un. Mais quand le dialogue du Parménide, on parle du jeune Aristote, c'est sûrement pas Aristote. Sûrement pas. Ça donnerait trop de valeur à Aristote, vous comprenez, de voir le jeune Aristote en face de nous. Alors, on ne sait pas c'est qui. C'est un autre Aristote. Très bien. C'est extrêmement curieux de voir comment, vous voyez, d'une façon générale, c'est très rare, ceux qui aiment Aristote, on les compte sur les doigts. Tandis qu'on aime Platon, ça fait bien aimer Platon, ça fait beaucoup, c'est très bien d'aimer Platon, c'est au goût du jour d'aujourd'hui. Alors, soyez spécialiste de Platon, vous aurez toutes les places. C'est intéressant, mais Platon ne forme pas. Comme dit Hegel, Platon ne forme pas. Le seul qui forme, c'est Aristote. Un jugement extrêmement fort et intéressant. Donc, philosophie de l'âme, de la réminiscence et les fissures. La réminiscence ne suffit pas. Alors on fait appel à Parménide, on fait appel à Diotime. D'un côté l'intelligence, de l'autre côté l'amour. C'est intéressant, les deux fissures. Et les deux choses où, de fait, il faut une initiation. Diotime initie à l'amour. Et Parménide initie à la dialectique. Alors, Platon, dans le Parménide, nous donne la première forme. Le passage de la qualité à la formalisation de la qualité. Prenez tout simplement blanc, blancheur. Vous retrouvez ça dans le commentaire de saint Thomas du De Hebdomadibus, qui n'est pas traduit. Ceux qui savent bien le latin peuvent lire ce petit fascicule de saint Thomas, s'ils ont beaucoup de courage, qu'ils le traduisent pour leurs frères qui connaissent moins bien le latin. C'est un acte de charité. Parce qu'il faudrait avoir une petite traduction du De Hebdomadibus. Parce que le De Hebdomadibus est très très intéressant. Justement pour ça, le passage du blanc, la blancheur. Essayons de comprendre cette première forme d'induction. Parce qu'il faut toujours essayer de saisir cela, parce que la première forme d'induction est la dernière forme d'induction. Génétiquement, c'est la première. Et selon l'ordre de perfection, c'est les états imparfaits. Parfait qui permet de découvrir l'être en acte et l'être en puissance. Ça, c'est l'ultime induction. Entre deux, il y en a des quantités. Des quantités, quelques-unes, quoi. Pas tellement, n'est-ce pas ? Parce que c'est chaque fois la découverte d'un principe propre. Il n'y a pas tellement de principes propres. Très bien. formes d'induction. Et en critique, c'est intéressant de voir ces 8 formes d'induction. Alors nous commençons par la première. Je ne sais pas si on verra les 8. Mais au moins pour la première et la dernière. Et entre deux, faites le boulot. 8 formes d'induction. Vous ne trouvez ça nulle part, hein, je vous le dis. Personne, à ma connaissance, n'a fait une étude sérieuse sur l'induction. Personne. C'est même très curieux. Parce qu'en français, c'est le nerf de la guerre, ça, au point de vue philosophique. C'est ça qui permet de saisir vraiment ce passage du visible à l'invisible. Vous voyez, le dernier livre de Merleau-Ponty, posthume, s'intitule « Du visible à l'invisible ». Vous voyez, on est tout à fait dans la philosophie moderne. Le livre posthume, c'était le livre de réflexion du dernier de Merleau-Ponty, le second Merleau-Ponty, qui avait découvert l'être sauvage. Parce qu'avant, comme disciple de Husserl, c'était l'être civilisé. Parce que Husserl est amateur, donc c'est l'être civilisé, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de plus civilisé que l'être mathématique. C'est l'être civilisé par excellence. Alors, le second Heidegger dépassait Husserl pour découvrir l'être sauvage, qui est l'être du philosophe. C'est-à-dire l'être non abîmé par la civilisation. Transposition de Jean-Jacques. L'être non abîmé par la civilisation, non abîmé par la logique. L'être à l'état pur. Le blanc du mur et la blancheur. Alors, d'abord, pourquoi l'induction ? Puis après, comment l'induction ? Mais pourquoi l'induction ? L'induction, c'est pour répondre à un appétit d'intelligence qui veut analyser pour connaître. Le blanc du mur, vous comprenez que c'est composé, le blanc du mur, c'est complexe. Le blanc du visage, le blanc du mur, le blanc est dans le mur autre chose que dans le visage. Parce qu'il y a un fond différent. Et donc le blanc du mur est complexe. Et pour saisir ce que c'est que le blanc, je me sépare du mur. Je ne veux regarder que le blanc. Et c'est comme ça dans les desserts. On vous donne une tarte avec des morceaux de pommes dessus. Il y en a qui prennent toutes les pommes et qui laissent le fond au voisin. Une abstraction. Il aime mieux la pomme que la pâte. Il ne demande pas au suivant s'il aime mieux la pâte que la pomme. Alors, il y a le blanc du mur. On fait ça automatiquement. C'est. Selon son goût. Il y en a que c'est l'inverse. Là, ils mettent toutes les pommes de leur côté. Ils prennent la pâte. Mais ordinairement, c'est plutôt l'inverse. C'est curieux. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Il laisse le mur et regarde le blanc. Tous ont compris ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ou c'est du côté de l'appétit et du goût, ou c'est du côté de l'intelligence. L'intelligence veut connaître pour connaître. Alors elle sépare. C'est une séparation qu'on fait. Une séparation entre blanc et mur. Parce qu'il n'y a pas que le blanc, il n'y a pas que le mur qui est blanc. S'il n'y avait que le mur qui était blanc, on ne pourrait pas séparer le mur et le blanc. C'est ce que dit Aristote de façon très très astucieuse à propos du cercle, de la même séparation. Le cercle est un un cercle d'airain, un cercle de bois, un cercle de... et ainsi de suite. Il dit, pour l'homme, ah, l'homme, ah oui, l'âme humaine, elle est toujours dans, inséparablement unie au corps humain. Donc, c'est difficile de comprendre ce que c'est que l'âme. Tandis que le cercle, on comprend tout de suite. Le blanc, je comprends tout de suite. Parce qu'il y a le blanc du mur, il y a le blanc du visage, le blanc de la neige. Mais c'est intéressant, parce qu'alors l'on voit la petite intelligence qui veut connaître ce qu'est le blanc. Donc, l'acuité. C'est le besoin de connaître l'acuité, ce qu'est le blanc. Qu'est-ce qui dans le blanc du mur est vraiment la forme blanc, la forme à l'état pur, c'est la blancheur. C'est la forme en soi. C'est le blanc dans toute sa pureté, dépouillé du mur. Vérité. Parce que l'interrogation est une anticipation. J'anticipe. Celui qui interroge anticipe. Il va plus loin que ce qu'il connaît. Il va plus loin que son avoir, que ce qu'il possède. Il va aller plus loin. L'interrogation exprime l'avidité de l'intelligence. Je vous ai dit que ce passage de l'analyse exprime l'appétit de l'intelligence. Il faut encore l'exprimer, cet appétit de l'intelligence. Eh bien, l'interrogation exprime cet appétit de l'intelligence. Je crois qu'on peut dire que l'interrogation est à la philosophie ce que l'hypothèse est aux sciences modernes. On comprend mieux. Quelqu'un qui est dans la recherche et qui ne fait jamais d'hypothèse n'avance pas. J'avance dans la recherche scientifique quand mon hypothèse est juste. Il y a une quantité d'hypothèses. Ah, c'est possible ça, c'est possible ça, c'est possible ça, c'est possible ça. Et puis il y a la véritable hypothèse. C'était très amusant à Fribourg, vous pouvez le faire, de voir les thèses faites en Chine. Les thèses faites en physique ou en biologie, ça m'interrogeait, ça m'intéressait d'interroger les étudiants là-dessus. Alors, ils voyaient très bien, il y avait des professeurs, c'est eux-mêmes qui disaient ça, il y avait des professeurs qui avaient des hypothèses, mais qui n'aboutissaient pas. L'étudiant étudiait 5 ans à regarder un champignon qui pousse. Et ça ne venait jamais. Parce qu'il devait y avoir au bout d'un certain temps telle chose. Non. L'hypothèse était une hypothèse sans issue, donc sans thèse. Tandis que les professeurs qui avaient le sens du réel posaient une hypothèse qui avait une issue. Et donc il y avait une thèse au terme. Mais l'hypothèse, c'est justement comme le mot le dit, hypothèse. Hypothèse, thèse, la thèse. Et hypothèse, donc, ce qui est avant, ce qui est antérieur, ce qui est fondamental qu'on exprime. C'est ça l'hypothèse. L'hypothèse porte sur un possible. Il est possible que. Eh bien, l'interrogation porte toujours sur une hypothèse. Autrement, je n'interrogerai pas. Il est possible que. Donc, l'interrogation implique toujours une certaine imagination. Et c'est là où le savant est présent dans le philosophe. Je veux dire, l'artiste est présent dans le philosophe. Parce que si le philosophe n'a aucune imagination, il n'interroge pas. Pas comme je te pousse. Si au contraire, il y a une vitalité suffisante chez le philosophe, il interroge tout le temps. Un enfant interroge tout le temps. Il y a une très grande vitalité. Et le propre de la philosophie, au point de départ, c'est de revenir à cet état d'enfance, d'interroger. Quand, au début, quand vous faites de la philosophie, vous n'interrogez pas. Parce que l'enseignement qu'on donne aujourd'hui abrutit constamment, c'est un été noir. Il n'y a plus d'hypothèse. Il faut redonner vie à l'intelligence pour qu'elle interroge et qu'elle avance. Ça, c'est l'interrogation. Alors, il faut considérer que dans toute épagogie, dans toute induction, il y a une expérience. Il y a une interrogation. Il y a une solution. Il y a 3 moments. Alors, on va étudier ces 3 moments pour voir comment ça s'organise. Dans un blanc, blancheur. Donc, il y a l'expérience. Ça, c'est facile à comprendre. Il faut une expérience blanc du mur. que c'est que ce blanc qui est commun au mur, commun à la neige, commun à la chemise, commun au visage, commun, commun. Et c'est toujours blanc. Oui. Il y a une certaine, alors, il y a une certaine intuition de voir que c'est ce que Raissa appelle l'intuition de l'être. Il y a une certaine intuition de voir par ces diverses expériences que le blanc se situe dans différents niveaux. Il y a le blanc de la pierre, il y a le blanc de la neige, il y a le blanc du mur, puis il y a le blanc du vivant, du visage. Vous arrêtez là. Dites pas qu'il y a une imagination blanche. Dites pas qu'il y a un esprit blanc. Non. Vous arrêtez là. Donc, vous voyez que ça qualifie le monde visible. Mais ça le qualifie diversement. Là, je me pose la question. Il y a quelque chose de commun dans tous ces blancs. Puisque j'emploie ce mot blanc. Vous voyez, il y a quelque chose de commun. À travers cette diversité, il y a quelque chose de commun. C'est l'interrogation qui va commencer à naître à partir de cette intuition de voir les rapports différents. Et je pose la question, qu'est-ce assez facilement, on pourra dire que c'est une démarche dialectique. Et le passage de l'induction à la dialectique, c'est, je crois, la première confusion fondamentale de toute philosophie dialectique. Confondre l'induction, qui est à trois moments, là où se trouve la démarche dialectique. La démarche dialectique, c'est toujours en vue de la synthèse, le tout. On fait une opposition pour découvrir le tout. Et donc il y a une sorte d'intuition du tout antérieure à l'opposition. Et l'opposition permet de découvrir pleinement ce que c'est que le tout. Alors, le tout ici, où est-ce qu'il est le tout? Est-ce que le tout, c'est blanc? Le blanc du mur? Ou est-ce que le tout, c'est blancheur? Il y a une certaine opposition entre ces différents blancs et une certaine unité. Et je peux opposer la blancheur au blanc, la partie, le tout. À ce moment-là, blancheur et tout, et blanc et partie. Je peux considérer que le blanc du mur est le tout et que blancheur est partie. Alors vous avez une dialectique de la composition et une dialectique formelle. Il y a deux types de dialectique. Puisque la dialectique, c'est toujours partie et tout. C'est pour ça que le fondement réel de la dialectique, c'est la participation. C'est partie et tout. Quand on participe, même de participation montre que je n'ai qu'une partie, je n'ai pas tout. Quand je dis que je participe l'être, ça veut dire que je n'ai pas tout l'être. Mon voisin a sa partie, et moi j'ai la mienne. Donc, le fondement de toute participation, le fondement de toute dialectique, c'est la participation. Et c'est toujours partie et tout. Profondément. Mais voyez, blancheur et tout. Blancheur et partie. Comparativement au tout, le mur blanc. Ça, c'est un tout, composition. Et ici, je sépare mur. Je sépare le blanc du mur quand je dis blancheur. Donc, blancheur peut être partie, blancheur peut être tout. Du côté de l'être, le blanc du mur est tout. Du côté de la forme, la blancheur est tout. Mais est-ce que une dialectique qui s'impose comme la seule forme de l'esprit peut-elle faire cette distinction? C'est ça qui est intéressant à voir. Oui. Parce que c'est partie et tout toujours. Hein. Les parties qui s'opposent et qui permettent le tout. Mais pour pouvoir voir l'opposition des parties, il faut avoir vu le tout. Intuitivement avant. Et je sépare dans le tout les deux parties. Et en même temps, je les réunis. Une synthèse de parties dans le tout. Alors, il y a une synthèse au niveau formel, blancheur. Blancheur unit tous ces blancs. Même si je suis opposé, la blancheur du mur n'est pas. La blancheur du visage n'est pas. Je ne sais pas. Et c'est pour ça que la négation de la négation donne la détermination. Forcément. Vous voyez, puisque j'oppose les blancs et je vois qu'il y a quelque chose qui les unit, le point de vue formel. Donc j'ai un tout formel, la blancheur, et j'ai un tout existentiel, le blanc du mur. C'est toute la question des tout et des parties qui est là sous-jacent. Or, de fait, il y a différents tout et il y a différentes parties. Ce que la dialectique ne fait pas. Elle ne voit pas ça, elle continue tout le temps. Mais les niveaux dialectiques sont justement aux différents niveaux des parties du tout. Je vois donc que l'âme de l'induction, hein, qu'est-ce qui fait l'induction? C'est partie et tout. Et quand je saisis blancheur, je saisis ce qui unit toutes ces parties, toute cette diversité. Et je vois que ce qui les unit, c'est grâce à l'abstraction formelle que je les unis. Pour saisir le blanc en soi, c'est-à-dire la blancheur. La première forme de l'induction, c'est au niveau de la forme. Alors, précisons encore, l'âme de l'induction, c'est l'interrogation. C'est la qualité d'interrogation qui fait tout. Or, la qualité de l'interrogation, c'est la qualité de l'hypothèse. Je présuppose, grâce à l'interrogation, qu'il y a une forme en soi qui unit toutes ces diversités. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? Mais quand vous posez qu'est-ce que c'est que la blancheur, vous présupposez qu'il y a un blanc en soi. Donc on dirait pas de nudité. Quand vous cherchez la nudité de la blancheur, vous avez présupposé la solution. Qu'est-ce que c'est que le blanc en soi? Et c'est cela qui vous permet de découvrir, grâce à l'interrogation, comment il y a quelque chose de commun dans toutes ces expériences diverses. Et ce quelque chose de commun, quand il s'agit du blanc du mur, du blanc du visage, c'est la blancheur. C'est la raison même de blanc qui permet de comprendre ce qui unifie toute cette diversité. Et c'est l'interrogation qui me permet de la saisir. Et l'interrogation est d'une certaine manière l'anticipation de la découverte. J'anticipe. Voilà la première forme d'induction qui est très intéressante. Je dis partie de tout. Et je vois tout de suite qu'il peut y avoir des chemins différents entre partie et tout. Parce que ce qui est tout dans l'ordre formel n'est pas tout dans l'ordre existentiel. Ce qui est tout dans l'ordre existentiel n'est pas tout dans l'ordre formel. La distinction entre matière et forme. L'existentiel implique la matière, le mur. Le blanc n'existe que grâce au mur. Il n'existe pas en soi. Pourquoi? Parce que c'est une qualité. Donc il n'existe pas en soi. Il sera grâce à son sujet. Alors vous pouvez ou voir distinction matière-forme, ou l'aspect formel et l'aspect existentiel. C'est la même chose. Ça prend deux noms différents, suivant les climats différents. Donc, vous voyez bien cette première forme d'induction dont vous n'avez pas conscience, sauf si vous faites de la critique. Autrement, la plupart du temps, vous n'aviez jamais pensé, vous aviez appris dans le langage blanc et blancheur. Vous n'êtes jamais dit, ah, blancheur, c'est le fruit d'une induction. Jamais. C'est extrêmement curieux. Pourquoi ça? Quelle est la première fois vous avez pensé le lien entre blanc et blancheur? Oui, vous avez dit forme concrète, forme abstraite, ça, répétez ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la forme abstraite? C'est saisir, c'est réduire la réduction de tout ce qu'il y a de commun dans la diversité des réalités blanches. Alors, voyez là, c'est là. Le point de vue de la phénoménologie. La phénoménologie met entre parenthèses l'exister pour saisir l'acuité. La phénoménologie husserlienne, dans toute sa, son point de vue très 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 simple, que vous retrouvez chez Merleau-Ponty. On essaie ramener la diversité d'expériences que vous avez d'état. ici, ici une dame. Elle n'est pas votre dame. C'est la table du maître. Il est seul. Une grande table, pour montrer que c'est magistral. La table de l'élève. Petite table commune. Tu vois, c'est exprès. On est deux au-dessus. Puis elle est toute petite. Puis petit à petit, vous voyez, il y a des tables qui ont du style. Pas de style. Au bois, mais pas style. Puis il y a des tables de style. Puis vous distinguez. Qu'est-ce que c'est que la table? Lucerne veut savoir la signification de la table. La signification des mots. Et c'est le problème de la signification. C'est le vieux problème de l'induction. Quand je cherche blanc, blancheur, je veux chercher la quidité de la blancheur. Si j'étais moderne, je dirais la signification du terme blanc. La signification propre de blanc, c'est blancheur. C'est la quidité. Alors, c'est intéressant de voir ça. Parce que la méthode husserlienne n'est pas autre chose que chercher la signification propre. Qu'est-ce que ça représente, la différence de chercher la quidité ou de chercher la signification? Si je cherche la signification, je suis au niveau des concepts. Si je cherche la quidité, je suis au niveau de la réalité. C'est toute la différence entre Husserl et Platon, Husserl et Aristote.